Et à nos côtés ce matin, Joël Guillot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléoclimatologue de formation, comme vous me l'expliquiez, chercheur au CNRS depuis 1985 et membre de GREC Sud, qui est un réseau de scientifiques. Vous serez ces 6 et 7 décembre à Barcelonnette pour Climalp, un colloque lié au changement climatique dans les Alpes du Sud, avec un thème qui a été choisi cette année, vivre et travailler en Ubaye en 2050. Joël Guillot, pourquoi cet horizon 2050 ?
Parce que c'est un, ce qu'on appelle un horizon à moyen terme. Disons, le GIEC avait l'habitude plutôt de faire des prédictions, des projections pour 2100, mais c'est un peu long. Alors 2050, c'est vraiment demain. Et c'est vrai, les gens qui vivent actuellement connaîtront 2050 pour la plupart. Et c'est important de connaître la direction dans laquelle on va à cause du changement climatique et qui est particulièrement important en région de montagne.
Ouais, le changement climatique, les données sont nombreuses aujourd'hui. Est-ce qu'on arrive à les digérer et à les comprendre ?
Ah ben oui, il y a énormément de littérature qui est publiée dessus par les scientifiques sur toutes les régions montagneuses d'ailleurs. Hein. Mais les Alpes sont particulièrement surveillées. Et le GREC Sud lui-même a compilé toutes ces informations en ce qui concerne la partie des Alpes qui se trouve en région PACA, pour faire un petit cahier de 40 pages qui indique comment va évoluer le climat dans les Alpes et ce qu'il faudrait faire pour s'adapter, en tout cas pour essayer de minimiser les impacts du changement climatique.
Et alors justement, comment vont évoluer les Alpes dans les années à venir au niveau du climat ?
Alors elles sont particulièrement sensibles au changement climatique avec des températures qui actuellement augmente à peu près de 0,3 degrés tous les 10 ans. Hein, alors par comparaison, au niveau du globe, c'est 0,2 degrés. Donc c'est nettement plus que, c'est 50% plus vite, on va dire, que le globe. Et c'est surtout en été que les changements sont les plus importants, avec des canicules qui sont de plus en plus longues. Avant, on avait maximum une dizaine de jours avec des températures au-dessus de 30 degrés, disons en relativement basse altitude. Et maintenant, c'est doublé. Alors,
allez-y.
Alors, avec des conséquences sur la neige, il y a des diminutions importantes du manteau neigeux et on projette des diminutions manteau neigeux encore plus fort à l'horizon 2050. Et tout dépend évidemment des réactions qu'on va pouvoir avoir par rapport au changement climatique. On peut essayer de limiter le changement climatique, le réchauffement à 1,5 degré au-dessus du niveau pré-industriel, donc de l'époque où on utilisait beaucoup moins les énergies fossiles, ou bien 2 degrés, c'est ce que préconisent les accords de Paris qui ont été signés en 2015. Et si on dépasse ce seuil des accords de Paris, alors, par exemple, les chercheurs de Grenoble ont publié un article disant que 80% des stations de ski des Alpes du Sud seraient impactées, donc avec une plus grande fragilité par rapport à la neige.
Ça veut dire que si on arrive à s'octroyer simplement un réchauffement qui est contenu à 2 degrés, l'économie de montagne peut survivre ?
Elle peut survivre, mais en s'adaptant, parce qu'il y aura quand même des impacts. On considère par exemple qu'avec 2 degrés, il y aura quand même 10% des stations qui seront quand même qui ne seront plus tellement fiables. Donc, c'est celles qui sont situées à en dessous de 2000 mètres d'altitude, même 1800 mètres. Et donc, pour ces stations-là, eh bien, il faudra forcément s'adapter. Et d'ailleurs, je pense que, comme on ne sait pas exactement si on sera capable de rester à 2 degrés, il faut vraiment que toutes les stations diversifient leur offre touristique pour mieux valoriser les ressources locales. C'est un peu une des conclusions de ce cahier du GREC Sud.
Miser sur l'or blanc, maintenant, ça ne suffit plus.
Ça ne suffit plus, non. Il faut penser que, par exemple, le tourisme d'été, il faudrait peut-être le développer un peu plus pour essayer de détendre sur l'année, d'ailleurs, la pression humaine. Et c'est vraiment des choses qui, d'ailleurs, je pense que la plupart des municipalités étudient ce problème-là et il faut vraiment l'accentuer parce que l'avenir n'est quand même pas du tout certain et il y a quand même de grands risques.
Est-ce qu'on ne réagit pas non plus trop tard ?
Ah ben oui, on réagit trop tard déjà pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre. C'est évidemment déjà très tard. Ça fait quand même de nombreuses années que les scientifiques disent qu'il faut faire quelque chose. Et plus on tarde, plus l'action devrait être vigoureuse. Alors effectivement, maintenant, les accords de Paris, ça date déjà de 4 ans. On s'aperçoit qu'on continue à émettre encore plus qu'avant des gaz à effet de serre, donc on ne sait absolument pas ce qu'il faut, on n'est pas du tout dans la bonne direction, et il faut vraiment maintenant y aller, et il faut que d'ici quelques années, les émissions diminuent fortement.
Et à échelle locale, une action rigoureuse ressemblerait à quoi dans les Alpes ?
Alors, le problème des Alpes, c'est que c'est quand même une région qui est assez enclavée, et un des gros problèmes, c'est la mobilité dans les Alpes. Et ça manque complètement de transport public. Et il faut commencer vraiment à développer ces transports publics. Il faut repenser l'urbanisme. Il faut favoriser l'utilisation des biens locaux, donc l'agriculture locale. Il faut faire des territoires à énergie positive, donc avec du renouvelable. Ça, c'est des choses qu'il faut absolument. Il y a des régions, par exemple, la vallée de l'Ubaye a déjà commencé à travailler là-dessus. Mais il faut intensifier les efforts.
Joël Guillot, aujourd'hui, ces derniers temps, ces derniers jours dans l'actualité, on a beaucoup parlé de neige, de phénomènes neigeux. On a beaucoup parlé de précipitations, des précipitations qui ont été mortelles dans les Alpes-de-Haute-Provence, avec une femme d'une trentaine d'années qui a été retrouvée morte. Et puis avec un secteur qui a été rendu instable au mai. L'un des pénitents s'est décroché. Heureusement, aucune victime, mais plusieurs maisons ont été totalement détruites. Certains disent aujourd'hui, ça c'est le changement climatique, c'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui des phénomènes exceptionnels arriver et se multiplier.
Alors les phénomènes exceptionnels, c'est très difficile de les attribuer avec certitude au changement climatique parce qu'ils sont exceptionnels par définition. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'avec le changement climatique, ce genre de phénomène va s'intensifier. Les pluies orageuses, ce qu'on appelle les événements méditerranéens, c'est dû à une mer qui est relativement chaude et qui favorise l'évaporation. Et quand ces masses d'air humide arrivent sur le continent, donc sur le Var et sur les Alpes maritimes, eh bien ça fait des précipitations orageuses. Alors, chaque précipitation orageuse, comme celle qu'on a eue ce week-end-ci ou le week-end précédent, ne peut pas être avec certitude attribuée au changement climatique. Par contre, ça nous montre qu'il faut faire quelque chose si on ne veut pas que ce genre de phénomène augmente en fréquence et en intensité.
Est-ce qu'on bétonne trop aussi ? C'est l'autre question qui nous a souvent été posée.
Ah ben oui, effectivement, quand les pluies peuvent s'infiltrer dans le sol, les dégâts sont beaucoup moins importants. Et là où c'est bétonné, évidemment, les sols sont imperméables et évidemment, ça ruisselle et ça fait des inondations beaucoup plus fortes. C'est la conjonction des deux phénomènes, en fait. Oui.
Joël Guillot, qu'est-ce que vous pourriez dire ou répondre aux climato-sceptiques ?
Ah ben les climato-sceptiques sont complètement en train de livrer un combat d'arrière-garde parce que maintenant c'est certain que le changement climatique est dû aux activités humaines et en plus il faut vraiment réagir rapidement et tout ce qui freine cette réaction et en particulier l'action des climato-sceptiques qui essayent de faire croire qu'il n'y a pas de problème. Maintenant ils sont un petit peu plus fins qu'avant et ils disent bon ok le changement climatique il est dû à l'homme mais avec la technologie on arrivera à régler le problème, ça c'est pas vrai et donc tout ce qu'ils peuvent dire c'est ça va freiner la réaction et finalement moi je trouve que c'est un effet dangereux qu'ils ont sur l'opinion publique.
Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU a déclaré à l'ouverture de la 25e conférence de l'ONU sur le climat nous passerons pour la génération qui a fait l'autruche, celle qui a déclaré la guerre à la planète. C'est ce que vous craignez, vous aussi ?
Oui, bien sûr. Oui. C'est évidemment le mode de développement qu'on a eu depuis la guerre qui a occasionné avec ses gaspillages, sa consommation effrénée. C'est tout ça qui a provoqué la situation qu'on a actuellement. Et les générations futures devront vivre de manière beaucoup plus raisonnée. Et pourtant, c'est très bien pour la planète, mais en même temps, ce n'est pas eux qui sont les responsables de ce qui se passe maintenant. Et c'est pareil aussi avec les pays du Sud, les pays africains qui émettent très peu de gaz à effet de serre et pourtant ils sont en première ligne des impacts. Donc finalement c'est vraiment très injuste le changement climatique qui s'attaque aux plus vulnérables et aux gens qui ne sont pas responsables des problèmes qu'on connaît actuellement.
Merci beaucoup Joël Guillot, je rappelle que vous êtes chercheur au CNRS, vous serez ces 6 et 7 décembre à Barcelonnette pour Climalp, un colloque lié au changement climatique dans les Alpes du Sud et le thème qui a été adopté, vivre et travailler en Ubaye en 2050. Merci d'avoir été avec nous.
Je vous remercie, au revoir.